Eh bien, bonjour, bienvenue sur Gros Point pour Toasty numéro 3 aujourd'hui, par une semaine froide, pluvieuse et fortement désagréable. Heureusement pour nous, il y a eu pas mal d'activités dans le monde du jeu baston la semaine dernière, n'est-ce pas, mon cher Hatzal?
Oui.
Eh bien, Hatzal, toujours là, fidèle au poste pour vous délivrer les informations les plus croustillantes et les plus chaudes dans cet hiver vraiment précoce. Mais aujourd'hui, un petit invité en la personne de Gags de eLife. Bonsoir, Gags.
Salut à tous, salut Hatzal, salut Nathan.
Allez. Donc voilà, Gags qui sera là pour nous parler en fin d'émission de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Mais avant, au sommaire de cette émission, on va commencer comme d'habitude avec une petite revue des titres de la semaine dernière. On parlera entre autres de Soul Calibur, de Skullgirls, de Street Cross Tekken. Évidemment, vous n'y couperez pas, il y aura une news sur Death Cargo, parce que c'est obligé. Ensuite, on reviendra sur un décryptage un peu particulier. Habituellement, on parle plutôt des jeux, des systèmes de jeux, de ce genre de choses. Cette fois, on va s'intéresser plus à un aspect communautaire. On va parler de l'ESWC, l'Electronic Sport World Cup, c'est ça, non?
Enfin, c'est plus la WCG sur le coup, mais après, on va globaliser.
Oui. Et de l'Evo et aussi de Catherine. Je ne sais pas pourquoi, mais on va parler de Catherine et on terminera donc en mixant décryptage et invité avec Gags et Ultimate Marvel 3. Alors, on va tout de suite commencer, mon cher Hatzal, avec les titres de la semaine passée. Et on va dire que c'était une semaine sous le signe de Soul Calibur, parce qu'on a eu la révélation de carrément 4 personnages.
Enfin, 5 si on compte, on compte les précos, voire même plus si on compte aussi là, les deux trucs en plus dans la version collector. Ouais.
Alors, prenons les persos classiques d'abord. Quel personnage nous a-t-on révélé?
Alors une qu'on connaissait déjà depuis pas mal de temps, hein, parce qu'elle avait été révélée à l'Ivo, on a eu Lexia.
La fille de Xiangfa.
On a eu donc Nightmare qui était confirmé déjà il y a un bail parce que Daishi s'était fait punir de D3 à cause de ça.
Daishi Odashima, qui est le directeur du jeu, qui a le Twitter un peu facile par moment. Quand même.
Ouais, non, mais c'était même pas sur Twitter, il s'était fait avoir sur un stream Famitsu. Et les journalistes japonais sont épouvantables. Tu sais, Daishi, il est très jeune. Alors, ils étaient là, oh, mais vous savez, vous avez vu ce garçon qui ressemble à une petite fille et compagnie. Ils ont pas arrêté de se foutre de sa gueule. Et le mec, bah, il a fait, allez-y, donnez une information. Puis, il a balancé un truc sur Nightmare. Bah, résultat, les mecs de Namco, ils l'ont très très mal pris.
Oui, c'est pour ça qu'il a pas été. C'est où qu'il avait pas été déjà?
Puni D3.
À l'E3, c'est ça. Et le dernier personnage, c'est. Il porte un chapeau.
C'est Raphaël.
Donc Raphaël, ouais, bon, bah avec un chapeau. Sinon, c'est le même. Alors, sinon, l'autre personnage, alors nous deux, on était déjà au courant grâce à un informateur qui, s'il nous écoute, se reconnaîtra du fin fond de son magasin de jeux vidéo. Le personnage invité, et c'est le seul et le même pour les deux consoles dans cette itération de Soul Calibur, c'est...
Ezio, de Assassin's Creed.
Et voilà, qui se bat avec toutes ses armes, ses épées, ses machins, son arbalète aussi. Il a pris
et ses petites bombes avec du gaz, enfin, pas mal de choses. Ce coup-ci, ça va bien coller à l'univers. C'est ce qu'a a longtemps dit Tago pendant toutes les interviews qui sont tombées dernièrement. C'était, alors Star Wars, c'était un très très gros truc, c'était énorme d'arriver à signer des persos Star Wars, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont fait « Mais vous foutez de notre gueule, ça n'a rien à voir avec le jeu, pourquoi est-ce que vous mettez ça ?» Alors là, ils se sont fait « Bon, on va prendre un perso qui colle un peu plus », et il faut avouer que ben, là, ils ont...
On en parlait sur le forum de Bagropoint, un forum que je vous invite d'ailleurs à visiter de temps à autre et à venir vous inscrire parce que c'est cool. Certes, en termes de cohérence en fait, historique, il y a environ 100 à 150 ans qui décalent Ezio de l'histoire de Soul Calibur, si je me souviens bien. Puis bon, l'histoire historique de Soul Calibur, c'est pas non plus toujours très respectueux, on va
non,
dire. Mais là où ça passe, moi je me disais, c'est qu'en fait, c'est au niveau du sens du détail, tu sais, du personnage. C'est-à-dire qu'il est très designé, il y a énormément de détails sur son costume, sur son visage, sur tout ça. Donc ça se rapproche de ce, tu sais, de la patte typiquement japonaise où tout est mis sur les personnages un petit peu. Donc c'est pour ça que ça marche bien. Et enfin, le dernier, alors celui-là, ça va être mon main, forcément, c'est Dame Pierre. Et Dame Pierre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un personnage dans Soul Calibur, c'était quoi, Broken Destiny?
C'est ça, oui, sur PSP, c'est ça, exact.
Voilà, c'était pas sur Wii.
Il me semble pas, non, c'est pas Soul Calibur Legends qui est sorti sur Wii.
Ah, pardon, oui, je confonds, excusez-moi. Et donc Dame Pierre qui se bat avec une petite lame accrochée à son poignet et des mimiques pas possibles. On vous invite bien sûr à aller voir les trailers de tous ces personnages.
Et si, on a oublié une chose, la date de sortie.
Ah oui, c'est vrai, alors ça sort quand ?
Le 3 février en Europe.
Eh ouais, donc on l'aura pour la World Game Cup. Donc attendez-vous à du lourd à la World Game Cup sur Soul Calibur, parce que ça va être un peu les championnats du monde, 2 semaines après la sortie du jeu. Ça va être sympa. Alors ensuite, très rapidement, on a eu une hypothèse comme quoi un des personnages de Skullgirls pourrait interagir avec les personnages qui sont KO. Car les personnages de Skullgirls, quand ils sont KO, restent dans le stage, restent au sol. Donc il se pourrait qu'un petit personnage futur, peut-être pas un qui sera dans le jeu, mais un autre, puisse les réanimer, les utiliser, on ne sait pas trop comment, donc on verra.
Il fera peut-être exploser, tu sais, comme dans Diablo. Tu feras des explosions morbides et tu tapiseras le mur. Tu feras des combos à base de ça et des traps avec les cadavres. Ça, c'est assez bon.
Je crois que tu confonds un petit peu avec Descargo, là, pour le coup. Descargo, Skullgirls. Dead Skullgirls, Cargo. Ça va être sympa. Une autre info qui a fait couler beaucoup d'angles. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à réagir sur le système de gemmes non désactivables de Street Fighter Cross Tekken sur le site. Donc, les gemmes de Street Fighter Cross Tekken dont on vous parlait dans le Toasty précédent ne seront pas désactivables. C'est-à-dire qu'ils vont faire partie, comme on s'en doutait la dernière fois quand on en parlait tous les deux, Hatsal, que ça va être en gros un élément de gameplay à proprement parler.
Ah oui, ça va même vraiment être au cœur du gameplay.
Mais on a entre autres appris qu'il y avait une centaine de gemmes présentes, ou des centaines,
je ne me rappelle plus. Des centaines de gemmes, ouais, c'est ça.
Voilà, des centaines de gemmes prévues, et qu'il y avait deux types de gemmes. Des gemmes de buff qui se déclenchent quand on fait une série de coups ou une action précise, et des gemmes, on va dire, passives, qui se déclenche en contre à quelque chose qu'on vous fait, genre en déchoppe, mais en déchoppe, ou si vous ne mettez pas votre garde, mais qui consomme de la barre de super en échange. Donc, je sais pas, moi, ça m'a l'air pas si mal pour le coup. En fait, Street Cross Tekken m'intéresse plus depuis qu'ils ont un système qu'avant, en fait.
D'accord.
Donc, je sais pas.
Mais
ça a l'air d'être le champ du cygne du jeu, mais je sais pas.
Mais là, ça déclenche un vif débat au niveau de la communauté américaine. Je vous invite déjà, d'ailleurs, à aller lire un article qu'a rédigé Kit dans la journée sur SRK, sur l'état actuel de tout ce qu'on, enfin de tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on peut savoir sur ce système et les problèmes que ça pourrait engendrer. Mm-hmm. Et là, on le voit, mais il y a plein de joueurs, notamment des gens comme Ultra David, James Chen, ou des plus vieux qui parlent pas trop, qui ont jamais trop été d'accord avec les dernières politiques de Ono ou sur les jeux de combat modernes. Je sais que la plupart conchient les systèmes de comeback et tout ça. Et là, actuellement, mm-hmm. ils deviennent assez turbulents. Ils se font vraiment entendre sur Twitter, ça gueule. Ils sont pas contents, pas convaincus du truc. À tel point qu'actuellement, il y a un truc qui fait débat, c'est pendant le panel Street Fighter à la dernière Comic Con, mm-hmm. un des diapos qu'a montré Ono pour expliquer pour le système des assist gems, c'était en gros, oui, c'est un système qui peut permettre de pouvoir, c'était quoi, contrer les problèmes récurrents dans les jeux de combat du genre quand t'es incapable de pouvoir déchopper, incapable de pouvoir bloquer correctement et compagnie.
Voilà, donc c'est sûr que c'est un problème. Non, c'est un peu la base. Donc,
C'est ça. Bon, bah, c'est cool si d'un côté, tu viens de dire on vient ouvrir le jeu à tout le monde et tu vas te dire que forcément, bah, au lieu de mettre un simple mode, les gens auront une petite aide. C'est pas mal.
Moi, je pense que c'est un peu idiot dans le sens où les gens qui savent garder des cross-up, et on parle ici d'un jeu dérivé à la base de Street Fighter, donc avec des cross-up assez visibles, avec des trucs quand même en termes de garde qui sont pas excessivement difficiles à garder. Moi, je pense tout simplement que les gros joueurs, ils vont laisser tomber tout de suite les assist gems, en tout cas la déchoppe et tout. La déchoppe, les gros joueurs vont pas l'utiliser, ils vont mettre que des buffs et puis ça va faire
c'est ça,
un
mais
truc
c'est,
de bourrin.
C'est justement le truc, hein, c'est-à-dire que ces gems-là, elles sont pas dirigées aux gros joueurs. Pour la plupart, elles ne sont pas dirigées vers ces joueurs. C'est voilà. En gros, je crois que c'est Ono qui disait ça, je crois. En gros, leur choix, c'est de pouvoir que tu puisses jouer avec ta grand-mère ou avec ton petit frère de 5 ans, un truc comme ça. C'est vraiment ça. L'idée, c'est ouais. J'ai pris mon Street Fighter Cross Tekken, vas-y mamie, prends la manette, on y va.
Ouais, bon, j'espère qu'on pourra jouer avec Kinect. Bon, allez, on passe à la suite.
Donc voilà, après, on verra bien, c'est sur l'application. L'idée bonne, c'est le truc sur c'est justement les autres, les buffs, qui sont censés pouvoir dynamiser un peu le système des matchs miroirs et compagnie. Ça, par contre, ça pourrait vraiment le faire.
Voilà. Bon, on verra, on aura l'occasion d'en reparler maintes fois, je pense. Donc, vite fait, NetherRealm Studio, les gens qui s'occupent de Mortal Kombat, font de la motion capture en secret. On ne sait pas trop pourquoi.
Bah, ça fait à peu près, on va dire, 3 semaines, un mois que Carlos Pessina, alors Carlos Pessina qui travaille avec la MK Team depuis carrément le premier Mortal Kombat, envoie des photos de mocap.
Voilà, et de motion capture.
Et on se fait, bah, c'est quoi? On ne sait pas. Alors, ça fait plusieurs, déjà pas mal de temps que les gens de NetherRealm se défendent de travailler sur du DLC. Ils ont fait, on n'a rien annoncé, on n'a rien de prévu. Donc, à savoir qu'est-ce que c'est. On sait pas.
Yoda et Dark Vador, je pense.
Ah ouais.
Ça, c'est effrayant. Sinon, en nouveau personnage, on parle un petit peu de Persona 4, The Ultimate Battle in Mayakoneka Arena dans ton cul. Naoto et Teddy, dont je n'ai même pas pu aller voir les images parce que je suis en famille et que je n'ai qu'une connexion à Mega. Donc, de nouveaux personnages dans Persona 4. Je ne connais pas Persona 4. Tu connais Persona 4, Hatsal?
Gex, j'y connais Persona. Vas-y,
Gex. Je connais complètement. Ouais, bah, il y a Teddy, Teddy qui est un peu la mascotte de Persona 4, quoi. Qui est aussi celui qui organise le tournoi dans l'histoire du jeu de combat. Et okay. Mais j'ai pas vu les screens, j'ai juste vu leur nom apparaître, j'ai même pas été voir les screens, donc je sais juste qu'il y a Teddy et que c'est la mascotte du truc, quoi. Il est complètement craqué et voilà.
Bah nickel. Enfin, avant-dernière news, Killer Instinct, il y a quelqu'un. Beaucoup de gens disent « Ah, Killer Instinct 3, Killer Instinct 3 !» Eh ben, on apprend un peu plus pourquoi Killer Instinct 3, eh ben, on le voit pas arriver et qu'on risque de ne pas le voir arriver. Pourquoi, Atal ?
Ah oui, c'est un gros, gros souci. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Alors déjà, le facteur principal, c'est donc pendant une interview de Neurogamer par Chris Tilston, c'est un ancien de Rare qui s'est barré pour monter sa propre boîte. Je crois qu'il sort un jeu sur l'UXA dernièrement. Enfin bon, le mec a dit que, en gros, tous les gens qui se sont occupés de Killer Instinct à l'époque ne sont plus chez Rare. Ils se sont tous barrés.
Et bah comme ça, hop là. Et ce qui explique peut-être Viva Pignata, remarque.
L'autre souci, et ça c'est, et ça d'un côté, faut bien le prendre en compte, c'est tu vas voir le gars qui veut, enfin tu vas voir les investisseurs, tu vas leur faire bonjour, je voudrais faire un jeu de baston. À côté de ça, les mecs, ils font des jeux de fitness. Là, c'est quoi, Kinect Sports?
Avec des fruits, je tiens à le préciser, avec des personnages en forme de fruits.
Qui se vendent par palette entière, et tu vas leur proposer un jeu qu'ils sont même pas sûrs de vendre. Et les mecs vont leur faire, bon, bah vous faites quoi, les gars? Ils vont leur faire, attendez, les gars, on va faire, allez faire la troisième édition de notre jeu de sport, on s'en fout de Killer Instinct.
Voilà, donc en gros, voilà pourquoi on risque de pas voir Killer Instinct.
Et après,
avant,
donc, l'autre assez intéressant, c'était qu'on l'aurait fait. Et si jamais vous, parce que dans leur nouveau studio, ça s'appelle Starfire, je vais pas dire de bêtises, on vous demandait de refaire Killer Instinct 3, genre de. Est-ce que vous le feriez? Les mecs étaient là, ouais, ça serait intéressant, sauf que le seul souci, c'est qu'on peut pas se permettre de faire ce qu'a fait Street Fighter. Il va falloir réinventer le jeu. C'est-à-dire qu'ils sont partis du dire que Killer Instinct, quand ils l'ont créé à la base, c'était un jeu qui n'était pas fait pour les consoles de salon, que c'était volontairement fait uniquement pour l'arcade, qu'ils se sont après démerdés à le faire passer sur console en coupant un paquet de trucs. De toute façon, tu joues sur les deux versions, tu vois la différence. T'avais des espèces, la caméra qui bougeait, ils ont dû couper des frames d'animation, enfin la totale. Et le gars a fait, bon, bah tu sais quoi, quitte à customiser le jeu à max, on aurait qu'à ajouter des données façon WoW.
Ah ouais, carrément. Ouais. Donc voilà. Les gars, ils sont partis, ils sont dans un autre délire. S'ils doivent le faire, ils le feront autrement, quoi. Ok, alors on va ensuite passer à notre dernière news. Et oui, parce qu'il en faut une. Descargot, notre petit jeu de l'amour et du cœur, le jeu qui aurait dû remplacer Street Fighter 3.3 à l'Evo 2012, bien qu'on n'ait pas encore le palmarès, mais je suis sûr qu'il devrait le faire parce qu'il ne le fera pas. Eh ben, la démo de Descargot, mais là on parle d'une vraie démo et pas que juste d'une démo technique, sortira le 28 octobre, soit dans 3 jours au moment où on enregistre cette émission, et dans une journée ou deux au moment où vous l'écouterez, si on arrive à la mettre en ligne à peu près au bon moment. Donc on connaît le contenu un peu de la démo ou toujours pas?
Ça serait une version améliorée de la démo technique. Donc ça, la première démo serait exclusivement encore avec Plasma. Mais bon, comme on a pu le voir sur la vidéo qui est tombée il y a quelques temps, ils ont ajouté un compteur de hits, il y a des nouveaux systèmes il y a des nouveaux combos, il y a des nouveaux coups, t'as l'impression de pouvoir commencer des combos correctement avec un coup sauté. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où tu sens que ça s'est amélioré. Donc à voir.
D'accord.
Ça faudra attendre la deuxième démo pour avoir plus de personnages. Mais là, Necrostorm avait lancé une espèce de sondage, une espèce d'enquête où il fallait que tu envoies des mails disant voilà, je veux jouer ces personnages-là dans la démo.
Tu sais, les mecs, non, des commentaires sur un site. Non, ouvre ta boîte mail, copie l'adresse email, envoie.
Ils ont un forum maintenant.
Oui, d'ailleurs, on rappelle que vous pouvez toujours vous faire nommer modérateur sur les voilà. forums.
Mais il faut voir la gueule du forum. Je veux dire, c'est bien, c'est vraiment bien qu'ils ouvrent un forum, mais plutôt que de se dire, tu sais, on va prendre les questions au fur et à mesure, on va vous répondre sur le même topic. En gros, c'est les mecs posent des questions. Et il y a un modérateur ou quelqu'un qui passe derrière qui va le cocher en disant voilà, nous avons sélectionné votre question, on y a répondu, il faut que tu ailles dans un autre topic où les mecs mettent les réponses au fur et à mesure sur un même poste.
Wow. Ouais, super, c'est chaud. Bref, en community management, ils sont nuls, mais en décapitation, ils sont forts. C'était Descargot et c'était donc la revue des titres de la semaine dernière. On va passer maintenant à un titre que je ne comprends rien alors que c'est moi qui l'ai écrit. Dans notre section décryptage de la semaine, le SWG et les veaux, Catherine. Alors, est-ce que tu peux me dire de quoi on va parler à ça, s'il te plaît?
Alors, on va, en gros, dans la semaine...
Alors, prends le premier truc, ESWG, allez.
Non, ESWG. Mais déjà, il fallait qu'on parle de la WCG, donc de la World Cyber Games. C'est majoritairement une ligue sud-coréenne qui s'est étendue un peu partout, qui touche... beaucoup de StarCraft, si je dis pas de bêtises, à l'origine, et qui ensuite s'est un peu étendu. Donc, dans la semaine, en gros, ils nous ont proposé de pouvoir choisir les jeux qu'on voudrait voir dans la saison 2012. Mm-hmm. Et l'intérêt qu'il y avait dans la liste, c'est que on retrouvait un certain Tekken Tag Tournament 2. Et alors, la question était, et bon, actuellement, le grand débat, c'est pour ça qu'on va parler de l'Evo, le grand débat, c'est de savoir est-ce qu'on aura un Tekken à l'Evo et sur quoi on jouera. Est-ce que ça sera encore un Tekken 6 ou est-ce qu'on aura un Tekken Tag 2 et de quelle façon?
D'accord.
Cette année, la WCG, donc la saison, a commencé en avril. Ce qui voudrait dire que si on recommence en avril et que Tekken Tag Tournament 2 est dedans, ça va peut-être dire que la version console serait sortie d'ici là.
D'accord. Peut-être, hein, ce n'est pas du tout à exclure, parce que moi, on m'avait dit, je ne sais plus comment, quelqu'un m'avait dit, mais je ne sais plus qui, m'avait dit si Namco fait autant, enfin se fait tellement chier, parce que dans tous les salons qu'ils ont fait dans leur booth, j'allais dire, dans leur stand privé, presse, etc., il y avait toujours une borne de Tekken Tag Tournament 2. Alors que c'est très inhabituel de déplacer une borne, de présenter un jeu sur borne et tout en arcade à des spécialistes consoles, quoi, ça n'a aucun sens, en un sens. Mm-hmm. Moi, il y avait une source qui m'avait dit que si jamais ils montraient autant de jeux, aussitôt, tout de suite, c'est que la sortie du jeu, ça allait pas être 2 ans plus tard comme avec Tekken 6, quoi.
Mmh. Je tiens donc, également à... Excuse-moi, je t'en prie.
Vas-y, j'avais fini.
Je tiens également à rajouter que les organisateurs de l'Evo n'étaient pas du tout contents de Tekken 6 cette année, que soi-disant, il y a eu beaucoup moins de monde que prévu, et ils sont pas du tout contents de Tekken 6, donc l'année prochaine, il n'y aura pas de Tekken 6, c'est à peu près sûr, quoi. Donc je pense que c'est vraiment Namco qui va devoir se bouger sur ce coup-là.
Parce que c'est vrai qu'on va dire que la finale...
C'était ghetto. Hein.
La finale, c'était... jusqu'à ce que NYC Fab sorte son Miguel, mais sinon, c'était ghetto. Quand on a vu Bob contre Bob, on s'est fait merde. Comment est-ce que tu veux donner une image équilibrée quand t'as une finale Bob?
Je pense que le meilleur moment de Tekken 6 à l'Evo, c'était quand Kaiopolis a parlé avec...
Avec Harris, c'était très fort ça. Mais il y a eu des bons matchs. En fait, c'est que les bons matchs, on les a eu avant la finale.
Voilà, c'est ça. Il y avait entre autres Genius, y était, il a fait des bons matchs. Rip aussi a fait de très beaux matchs.
Rip a bien joué. On a eu Just Frame James, on a eu plein de mecs qui étaient là. Donc il y a quand même eu des beaux trucs. Après, ce qui est marrant, c'est que on se retrouve avec du Bob assez régulièrement dans le top aux États-Unis, et pourtant c'est un perso qui brille pas tant que ça dans les autres pays.
Bah, il est garanti dans les pays où c'est gratuit, quoi. C'est un peu comme, je sais pas trop comment dire. C'est un peu comme Yoon dans certains pays. Pour prendre un cas qui me vient en tête vu que c'est mon jeu, mais c'est comme Eddie en Europe ou aux États-Unis. Eddie, c'est garanti. Alors qu'au Japon, ils ont appris à jouer contre, tu vois. Donc c'est juste, ça dépend des pays, quoi.
Après, il y a
des pays
où on apprend à jouer contre. Enfin, Bob s'adapte, enfin, pas mal au genre de jeu de certains joueurs aux États-Unis. Il y a pas mal de gars qui le jouent, et puis bon, c'est vrai qu'après c'est un perso assez gratos. Hein.
Non, puis bah c'est comme prendre un petit Yoon, prends un petit Bob, on sait jamais. Un petit Bob en assurance, ta vie sera sublimée. Tu sais, c'est comme les mecs qui laissent des messages dans ta boîte aux lettres avec des trucs qui font revenir la femme, l'être aimé et le travail, tu vois. Bob, c'est un peu pareil, quoi.
Mais sinon, pour en revenir donc sur Tekken Tag 2, il y a un truc assez intéressant. J'ai complètement zappé de le mettre en compte, mais ça revient là-dessus. Actuellement, on a eu des retours de Hawaï. Alors Hawaï, ça reste encore une rumeur, mais surtout on a eu des retours de Super Arcade. Donc sur la côte ouest. Alors ça, par contre, c'est sûr et certain. Ils ont commencé à recevoir les boîtes pour faire des tests réseau. qui devait se faire sur la fin du mois pour que Tekken Tag 2 soit testé en borne là-bas.
Ouais, bah écoute, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que s'ils abdiquent sur la version arcade, c'est que ils ont pas trop d'espoir. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va durer en arcade. Enfin, donc il y a déjà ça pour pour Tekken Tag Tournament 2. Mais pourquoi m'avais-tu fait marquer l'Evo?
Oui, bah l'Evo, ça, l'Evo, maintenant, on se pose la question. Comme c'est un tournoi majoritairement console, c'est que on connaît pas encore la date de sortie de tous les jeux en 2012, mais il va y avoir un max de jeux. Le truc, il est qu'il y a eu un débat qui s'est lancé il y a quoi, peut-être un mois et demi, tu me corrigeras, Gex, si j'ai une bêtise, où Mr. Wizard avait demandé s'il voulait un niveau sur 4 jours.
Ouais,
avec un jour qui permettrait notamment, enfin c'est comme ça que les gens l'ont interprété, de mettre en avant des jeux qui ont moins d'exposition. Genre, on aurait pu faire un jour spécial Poverty Games, des trucs comme ça.
Et donc, ça a été.
Finalement, on l'a gardé sur 3 jours. Donc on ne sait toujours pas le programme, on ne sait toujours pas comment c'est prévu. Actuellement, ils ont lancé je crois que c'est la semaine dernière, ils ont lancé la campagne d'inscription pour les tournament seed. En gros, tu seras. C'est un peu, tu sais, comme tous les tournois. C'est le Power Up, le CEO, le Revelation, c'est tous ces tournois-là qui sont faits avant l'Evo, qui te permettaient de gagner des points au niveau du.
Du ranking.
Voilà, du ranking et d'être mieux placé dans le bracket. Il y a ces trucs-là. Et donc maintenant, on va falloir savoir quel jour on va garder. Bon, on a des jeux sûrs. On sait clairement qu'il y aura AE, on sait clairement qu'il y aura Ultimate Marvel. Soul Calibur 5, vu le passif, quel jeu, ça paraît obligatoire.
Ah, mais je veux Malek avec un impair qui va venger, qui va défendre l'honneur de la France.
Ça paraît obligatoire, donc ça nous en fait déjà 3. On aurait Street
Fighter. Malek en impair, oui, ça me paraît tout à fait obligatoire.
Ouais. On aurait Street Fighter Cross Tekken, ça paraît. À moins que les gens viennent vraiment s'opposer au truc, ça paraît quasiment sûr, ça nous en ferait 4.
Je pense qu'il y sera malgré tout. Je pense qu'il y sera.
Si Capcom étant quand même assez sponsor de l'Evo, Kilian y étant, Ono, Nitsuma, enfin, il y avait déjà tout le monde cette année, c'est vrai que. Ne pas mettre Street Cross Tekken, je crois que ce serait un peu délicat de la part des organisateurs de l'Evo de ne pas mettre un tournoi Street Cross Tekken, sachant que c'est la nouveauté et que je pense à titre personnel que Capcom, ils veulent tourner la page de Street 4 là un petit peu. Quoi. Genre, on soutient encore un peu, mais il va falloir l'oublier parce que maintenant, il faut racheter des jeux. Tu vois, non, mais c'est vrai, hein, maintenant, il faudrait racheter des jeux. Il faut arrêter de faire des tournois AE à 1500 personnes et commencer à faire des tournois Street Cross Tekken pour que les gens l'achètent. Sachant qu'ils ont dit. En plus, qu'ils allaient très certainement pas faire de disque d'extension pour Street Cross Tekken et que cette fois ils avaient pensé le jeu vraiment en amont pour recevoir des extensions
par DLC,
et donc un peu à la BlazBlue, autrement dit, acheter les persos et l'équilibrage arrive avec. Donc, moi j'ai l'impression que ça va être Street Cross Tekken, dire aux gens ok, on prend AE, on prend Marvel, mais on prend pas Street Cross Tekken à l'Evo, ça me paraît un peu difficile pour les orgas quand même.
Donc là on sera un 4. Il nous resterait donc, vu que Namco met un max de thunes dans l'Evo depuis déjà 2004, ça paraît très logique que si Tekken Tag 2 soit là d'une manière ou d'une autre, qu'il soit sur borne ou sur console. Je veux dire, ils ont bien fait l'effort cette année d'amener des bornes. Donc,
Je pense que voilà, ils le reproduiront au besoin. Après, le truc, là, actuellement, le parent pauvre de l'année 2012, ça va être Arc 6, étant donné que Persona ne sortira qu'en arcade et qu'on en est à la quatrième version de BlazBlue, qui sera à ce moment-là, ce sera Extend.
Mais le truc, donc, là, on serait déjà à 5 jeux. Il nous resterait quoi? On aurait Dead or Alive 5. Dead or Alive a déjà été à niveau plusieurs fois.
Il ne sera peut-être pas sorti.
On ne connaît pas la date de sortie. Voilà. Il nous reste après qui. Oui, et il y aurait les deux inconnus.
C'est quoi donc?
BlazBlue et KOF 13.
Ouais, ah oui, KOF 13, c'est quand même la grosse inconnue. T'en penses, toi, Gex?
T'en penses quoi, Gex, en fait? J'en parlais il n'y a pas longtemps avec toi, Atsal, et on s'était dit qu'en fait, KOF 13, ça serait 50%. C'est 50-50, en fait. Tout va dépendre du soutien d'Atlus.
Ouais.
De la motivation des joueurs, parce que le jeu sera sorti en novembre. Est-ce que les joueurs joueront toujours au jeu ou. Ils passeront peut-être sur un autre jeu comme Street Fighter Cross Tekken, et aussi le soutien d'SNK par SNK ou
oui de tous les éditeurs en général.
Exactement. Voilà, je pense que c'est vraiment le vrai inconnu de cette Evo 2010 quoi.
Un truc ça me fait penser à un truc, excusez-moi de vous couper, mais là ça me fait penser à un truc que j'ai oublié. Moi je me demande si à la place d'un énième BlazBlue on pourrait pas avoir un Skullgirls aussi.
Il y a aussi que Skullgirls, effectivement, il y a Skullgirls, ouais.
Donc, parce que quitte à avoir un truc un peu à la Arc 6, Skullgirls, pour le coup, c'est fait par Maxis, c'est fait par des Ricains, etc. Ça, c'est peut-être plus frais, quoi. Donc, on verra, mais bon.
Donc, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il va y avoir une grosse question au niveau des sélections. C'est comme MK9. Je veux dire, MK9 pourrait revenir. C'est un jeu, enfin.
Oh putain, on l'avait oublié, oui.
Mais le souci, en fait, il est que actuellement, il y a même des problèmes internes au niveau de la communauté. Il y a des gens qui trouvent le jeu très bien. Enfin, le jeu est très très bien. Le problème, c'est qu'il y a des patchs. Enfin, certains trucs dans les patchs sont faits. On se demande pourquoi. Et il y a des problèmes récurrents qui n'ont toujours pas été corrigés. Je te parlais de l'input drop la dernière fois. T'as un glitch avec la barre de super. Il y a des fois, tu viens bloquer, t'as un tiers de la barre qui dégage, tu sais pas pourquoi.
Donc tout dépend aussi du support du jeu. En fait, beaucoup de jeux de l'Evo va se décider surtout par rapport au support des développeurs et comment les joueurs vont interpréter ce support, en fait.
C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on se demande c'est là justement la question avec le mocap. Qu'est-ce qu'est en train de faire NetherRealm? Est-ce qu'ils vont nous proposer autre chose? Est-ce qu'ils vont nous rajouter des trucs? Est-ce qu'on va avoir un supplément pour tournoi? C'est la grande question, parce qu'actuellement la communauté MK se pose beaucoup de questions aux États-Unis. On sait qu'il y en a qui vont se barrer sur d'autres jeux. Actuellement, il y en a un paquet qui sont prêts à passer sur Street Fighter Cross Tekken.
Donc c'est
même Arturo c'est vrai, Sanchez, Gex, hein. Arturo je parle pas mal avec Arturo Sanchez, Sabine. Il en a marre, quoi. Il soutient vraiment le jeu depuis le début, il fait des tournois, etc. Mais là, il en a marre. En fait, le problème, ce qu'il m'expliquait, c'est que chez NetherRealm, il n'y a pas de Seth Killian, en fait. Il n'y a pas de mec vraiment, qui suit vraiment les jeux de baston, qui suit vraiment l'actualité, qui suit vraiment les tournois et qui fait des remontées par rapport à ça, en fait. Donc c'est ça le problème.
Bah, il faudrait qu'Arturo soit chez NetherRealm.
Non,
en
c'est
fait,
Tom Brady qu'il faudrait qu'il prenne.
Hein. Oui, Tom Brady.
Tom Brady. Ou d'autres mecs, il faudrait qu'ils prennent Shock, il faudrait qu'ils prennent Ryo, des mecs comme ça, des gars qui jouent à MK depuis des années, quoi.
Mais même Tom Brady, hein, je pense qu'il a plus ou moins lâché l'affaire, non, parce que je le vois plus.
Si Tom Brady joue encore, Tom Brady fait encore ses salty cast qui sont très 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 bien. Il se fait toujours chier dessus par tout le monde, les stream monsters lui volent sa peau, mais c'est assez énorme. Le problème, c'est que comme il vient régulièrement le dire, c'est que là il n'y a pas de Seth Killian, il n'y a pas de community manager comme tu peux en voir en compagnie. C'est que ils ont 150 000 community managers aux producteurs, mais tu sais jamais à qui t'adresser.
Ouais, voilà, c'est un peu le problème. Ouais.
C'est un gros souci, et c'est pour ça que Perfect Legend, je crois qu'il a carrément lâché. Lui, il est déjà parti à se dire je vais jouer à Tekken Tag 2 et je vais jouer à DOA 5. il est un peu champion en titre de DOA 4 à l'Evo.
Ouais.
Tom Brady, pareil. Tom Brady, ça m'étonnerait pas de le revoir partir sur DOA 5, vu qu'il a fait régulièrement il a fait au moins un ou deux top 8, je crois, sur DOA. Ryo, je ne sais point. Et après, bon, bah, c'est pour ça que c'est bizarre, c'est que la communauté est encore là, ils ont encore plein de joueurs. Le jeu s'est vendu par palette. Le problème, c'est que Mortal Kombat, tu peux le vendre par son nom. Ça n'empêche pas toutes les qualités que peut avoir le jeu. Mais vraiment, le jeu, enfin, quand tu prends d'où ils reviennent, le jeu est excellent. C'est juste que tu sens vraiment que pour un jeu vraiment typé compétitif, malgré le fait qu'un jeu comme UMK3 était vraiment compétitif, c'est juste qu'il donnait une approche du genre vraiment différente. Mm-hmm. Il manque encore d'expérience. Il y a quelque chose que tu vois où.
C'est quand même con. C'est quand même con. Hein. C'est quand même con parce que la communauté UMK3 a quand même survécu depuis des années à la décrépitude du jeu de baston en général, du jeu de baston médiatique et de Mortal Kombat plus particulièrement. Et voir que les mecs ils sont quand même revenus entre les morts et qu'ils ont résisté pendant 10 ans pour ça, c'est un peu tristouné quand même.
Ça a donné une exposition. Les mecs ont été à l'Evo. C'est pour ça qu'ils étaient complètement dingues à l'Evo, que les mecs ont fait des fatalités à pas en finir quand ils étaient sur l'écran géant. C'était leur moment, les mecs ils se sont fait, ça fait 15 ans qu'on attend ça, quoi.
Ouais, voilà, donc bon. Espérons que ça soit pas gâché. Et donc, dernier truc, tu disais peut-être qu'on verrait plus souvent Catherine dans les tournois de jeux de baston.
Je vais profiter donc de cette émission pour faire une annonce en exclusivité. Je serai le meilleur joueur européen de Catherine en Versus. Je vous l'assure.
On prend note, Gags, on prend note.
Mais ça serait pas impossible, hein, si les mecs là de FNSKO, les gars de Norcal, comment ils appellent ça, le Norcal Pillow Fight ou un truc comme ça, il y a un groupe qui s'est lancé. Si les mecs arrivent à faire leur coup, ça serait pas impossible de voir le jeu, parce qu'en 2006, on avait quand même eu un tournoi Mario Kart DS. Hein. À niveau, donc rien n'est impossible.
Et en plus, il y a Atulus derrière qui sponsorise les tournois, donc c'est que vraiment même eux.
Mais justement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à Tsal, en fait. Je disais, moi, le souci, c'est que, attends, imagine, on est à l'Evo. Et à l'Evo, il y a le choix entre Catherine et KOF 13. Atlus, ils vont pas être cons. Ah, ils vont pas sponsoriser Catherine, quoi.
Désolé, hein, mais les cubes.
Et c'est, en plus, c'est leur production personnelle, je veux dire. C'est Atlus, quoi. C'est eux qui le font, celui-là.
Ouais, mais quand même, on est à l'Evo, quoi. On est à l'Evo. Le mec, il a deux jeux.
Non, mais t'as pas vu le tournoi qu'il y avait hier de Catherine, mais moi,
j'en sais pas. C'est dingue, c'est vraiment, vraiment hype, hein. Comme
il y
avait
des setups, mais voilà.
Donc, bon, bref, allez.
L'idée, c'est que là, il y a le Socal Regionals qui arrive. Toutes les, la plupart des, c'est des forums communautaires s'occupent de leur tournoi. Hein, merci Alex Baillet pour ça. Et Atlus va justement sponsor le tournoi KOF 13. Manquerait plus que les mecs fassent, tu sais, bah, vous savez quoi, allez, on met Catherine en plus.
Ouais, mais bon, on verra. Franchement, je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire pour le moment. Bon, allez, on va passer à notre dernier décryptage et à la raison pour laquelle on a invité Gex à l'origine dans ce cast. Mon cher Gex, donc, là, on en a environ 30 minutes d'émission. On va avoir 5 grosses minutes pour parler de Ultimate Marvel vs Capcom 3, auquel tu as pu jouer de longues heures, au sujet duquel tu nous as écrit un très bon article sur tes impressions sur le jeu, que je vous invite à consulter. Vous ne pouvez pas le louper. Vous allez sur Bagro.com, vous verrez une grosse image avec Wolverine et Ryu dessus. Il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas le louper. Donc, je te propose qu'au lieu de revenir là-dessus, on revienne un petit peu sur, alors globalement, sur ce que tu as dit en fin d'article qui m'intéressait beaucoup. Et je pense qu'Atsal, tu vas pouvoir nous éclairer et éclairer les gens qui nous écoutent aussi. Tu disais qu'en fait, Marvel vs Capcom 3 se rapprochait plus de Marvel vs Capcom 1, alors que Ultimate Marvel vs Capcom 3 était plus proche de Marvel vs Capcom 2. Alors, excusez-moi si c'est compliqué, mais bon, bref. Autrement dit, le Marvel vs Capcom 3 d'origine était un jeu très cruel, où chaque ouverture de garde pouvait mener à une mort, etc. Alors que Ultimate allait plutôt donner des moyens aux personnages, au lieu de tuer tout le monde en un seul combo, va donner les moyens aux personnages de recommencer, d'embrouiller plus la tête que de tuer directement. Donc tu confirmes que j'ai à peu près bien compris ce que tu voulais dire.
Tout à fait, tout à fait.
D'accord. Alors moi j'ai une question à te poser toute bête. Tu étais là-bas avec énormément de joueurs de Marvel vs Capcom 3 français. Car oui, messieurs, dames qui nous écoutez, il y a des joueurs français de Marvel vs Capcom 3. Communauté très discrète mais qui kiffe le jeu et qui le dose. Et alors tu disais dans ton article qu'ils avaient trouvé que le jeu était carré, mais j'aimerais bien avoir un peu plus leur ressenti. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce que tout ça, quoi? Donc voilà.
Alors en fait, on en a pas mal parlé en jouant au jeu et après avoir joué au jeu. En fait, le jeu est plus carré dans le sens où tous les abus d'MVC3, donc toutes les choses qu'on trouvait assez abusées, elles ont toutes été corrigées en fait. Donc que ce soit Phoenix, que ce soit Wolverine, que ce soit les air dash de Magneto, que ce soit qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de corrigé encore. En fait. Tout ce qu'on voyait en top 8 sur Marvel Capcom 3, tout ce qui paraissait un peu abusé, ça n'est plus dans le jeu en fait, tout simplement. C'est-à-dire que on ne verra plus une tonne de Phoenix. Ça c'est clair et net. Phoenix, elle a été nerfée d'une part, donc c'est-à-dire qu'elle peut plus faire plus d'une boule en l'air, sachant qu'elle peut en faire 3 dans MVC3. Mais en plus de ça, le système de jeu fait qu'on peut retirer une barre d'hyper à son adversaire avec un TAC, j'ai plus le nom en français à ça.
Un team aerial combo.
Voilà. Donc en fait, le personnage est nerfé et le système de jeu la nerf encore derrière. Donc une chose est sûre, c'est maintenant ceux qui joueront Phoenix, ça sera des mecs qui aiment le personnage et des mecs qui savent la jouer.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais,
qu'on ne fera plus rien avec Phoenix si on ne sait pas la jouer.
Mais ce n'est pas le cas dans MVC3. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de joueurs, et je crois Clockwork le premier, qui disait que s'ils avaient le choix entre Dark Phoenix et une Phoenix normale sans mode Dark Phoenix, ils prendraient direct la première.
Exactement. Ils joueraient
Phoenix de base parce qu'ils trouvent le perso beaucoup plus intéressant.
Exactement. Bah, Alioune, à la base, jouait Phoenix. Il était vraiment chaud pour ce personnage sur MVC. Et pareil, il a changé de personnage parce que le perso était trop gratuit en X-Factor. Enfin, en X-Factor plus Dark Phoenix. Et il me semble que Wong aussi avait dit un truc similaire sur Phoenix. Donc ouais, c'est clair que le personnage en Phoenix normal est super intéressant. Mais une fois en Dark Phoenix, c'est la foire à la saucisse, quoi. D'ailleurs, on l'a vu sur le tournoi il y a 2 semaines, je pense, avec un magnifique final Viscount.
Ils nous ont fait ça ce week-end au Drumstruction. On a eu une finale, je crois que c'était c'était Mine versus Filipino Champ. Ça s'est terminé sur un duel de Phoenix à base de bas.
Ouais, donc voilà, donc bah. Donc pour toi, donc en gros, juste, on va avoir une redéfinition totale de tous les tops, de tous les points forts, de tous les trucs, entre guillemets, un peu craqués qu'il y avait dans MVC3. Tout cela a disparu, donc il faut s'attendre à de nouvelles choses, quoi, en gros.
Ah, exactement. C'est presque un nouveau jeu, en fait. C'est presque un nouveau jeu parce qu'il y a tellement de changements, ne serait-ce qu'au niveau du hitstun général, qui fait que les combos vont changer, parce que ça ne sera plus des combos à rallonge comme avant.
Alors, s'il n'y a plus de combos à rallonge, il y a quoi ?
Ben, les combos, en fait, les combos seront un peu plus courts, mais ça va se jouer sur les resets, en fait, maintenant. C'est-à-dire que quand tu trouveras l'ouverture sur quelqu'un, tu ne vas pas lui retirer 100% avec un glitch ou lui retirer 80-90% avec un super gros combo plus assist. C'est plutôt tu vas lui retirer, on va dire 50%, entre 50 et 60%, et tu vas devoir jouer, en fait, en reset. Si tu veux vraiment cartonner ton adversaire.
Donc pour ceux qui ne savent pas, le reset, c'est le fait, en fait, de mettre l'adversaire dans une certaine position pour pouvoir ensuite lui refaire un mix-up automatique. C'est ça, non ?
Exactement. Et d'ailleurs, la plupart des nouveaux personnages ont des setups de reset assez intéressants, ce qui prouve que le jeu a vraiment été pensé pour partir dans cette optique-là, quoi. Et c'est une optique qui est très proche, comme tu le disais, et comme j'expliquais dans l'article, de Marvel vs Capcom 2. Marvel vs Capcom 2, en fait, c'est un jeu qui avait un gros problème d'équilibrage, on est d'accord. Mais ça ne retire rien, en fait, que pour jouer à Marvel vs Capcom 2, il faut être un monstre en exécution.
Ah, il fallait être un bon.
Et il faut être un monstre aussi en vision de jeu, parce que les resets, c'est ce qui fait un bon joueur. Et là, je pense que ça va être la même chose, en fait. C'est-à-dire que tu auras beau bosser tes combos, tout ça, en training, il faudra vraiment que tu aies une vision de jeu et que tu trouves des setups intéressants pour faire tes resets, en fait. Je pense que quelqu'un qui ne jouera pas avec des resets dans Ultimate Marvel vs Capcom 3, il ne pourra pas être aussi bon qu'un mec qui joue avec les resets.
D'accord, mais il y a un truc aussi qui m'intéresse, c'est que, tu te rappelles, Hatsal, on avait regardé un cross-counter consacré à Viscount, donc Viscount qui est le champion mondial de Marvel vs Capcom 3 à l'Evo, qui a gagné avec une team de Wesker, où le mec expliquait qu'en fait, il avait pris en la philosophie qu'au final, qui s'applique à Ultimate Marvel, c'était de dire, bon bah voilà, je joue Wesker, et Wesker, il a le coup de pistolet vers le bas, là, qui reset l'adversaire, et en gros, son but, c'était, je fais le combo le plus simple possible, comme ça, je suis sûr de ne jamais le louper, je mets au sol, et après, je fais un reset comme ça et j'ai 9 ou 10 options différentes qui m'attendent. J'ai plus qu'à attendre le piège à l'adversaire, quoi. Et après, on a vu, après les Vos, environ de septembre, Combo Feed aussi, qui a trouvé un setup avec sa team She-Hulk et entre autres, comment il s'appelle, Bionic Arm, là.
Spencer,
dans laquelle, en fait, au lieu de faire un combo plus long avec sa She-Hulk, il utilise le coup qui stun, donc qui met à genoux avec She-Hulk, et comme ça, ensuite, il peut faire un reset facile. Donc, en un sens, les joueurs avaient déjà commencé à appliquer un petit peu cette philosophie de jeu, non ? C'est un peu ça, quoi.
Le combo Feed, c'est un des très rares joueurs de She-Hulk qui a utilisé le système de stun, hein. Tu prends les autres, notamment les mecs qui utilisent l'équipe IG, sont loin de jouer comme ça. Après, Viscount, je sais pas ce que t'en penses, Gags, mais c'est pas forcément le meilleur exemple parce que il est dans le jargon, il est cheap as fuck. Quand tu vois son équipe, il se fait pas chier, hein, je veux dire partout, hein, dans tous les jeux.
Ouais, comme Tokido.
Ah, mais carrément. Enfin, je veux dire, Tokido, là, les Américains l'ont pas surnommé Dirty Tokido pendant les années pour rien. Hein.
Dirty Tokido.
Mais en fait, la philosophie qu'applique Viscount, et finalement, c'est comme ça qu'il faut jouer au Wesker, je pense, même dans Marvel Capcom 3 Vanilla, il faut jouer avec les resets pour qu'ils soient vraiment, vraiment intéressants. Mais en fait, cette philosophie, elle a été passée, en fait, à plus ou moins tous les personnages sur Ultimate Marvel. C'est-à-dire que la manière dont il jouait dans MVC 3, finalement, ne sera pas si éloignée de la manière dont il devra jouer dans Ultimate.
D'accord, donc le jeu va être quand même vachement différent. Hein, parce que,
ouais, clairement. C'est-à-dire que, quelque part, c'est une bonne chose, parce que ça va permettre aux nouveaux joueurs de ne pas être trop éloignés des joueurs qui jouaient déjà sur le précédent. Mais en tout cas, nous, de ce qu'on s'est dit entre joueurs d'MVC3 à la soirée, c'est qu'il va falloir réapprendre pas mal de choses, quoi. C'est-à-dire qu'on va tous s'enfermer dans la salle du temps, et parce que sinon... Pour moi, le personnage, vraiment, ben justement, Strider va vraiment être monstrueux au niveau des resets, et on va en voir vraiment pas mal, je pense. Mais la contrepartie de ce personnage, c'est que on se prend un light kick, on est mort. C'est voilà, pas le droit à l'erreur.
Enfin, Clockwork de retour avec.
Ça va être vraiment.
Ça va être bon.
Bon, Wong, je pense que Wong, ça va l'arranger. Ce retour au système de reset, parce que c'est un joueur de Marvel 2 quand même à la base. Yipes, pareil. En fait, je pense qu'on va voir revenir tous les gros joueurs d'MVC2 sur le devant de la scène.
Ça serait intéressant de voir des joueurs, parce qu'actuellement, il y en a certains qui, en prévision du retour de Marvel, enfin, du nouveau Marvel, reviennent. Genre, j'ai vu Chungsta qui est de retour dans les Rambat en Californie.
Yipes, il a vraiment levé le place ces dernières semaines.
Oui, on l'a vu au Devastation et au Season's Beating, il s'est beaucoup amélioré. Donc en fait, ça pourrait être un petit peu le truc qui manquait et que certains joueurs de Marvel, tout tristes, genre Neo par exemple.
Mais Neo, qui a fait un super bon score au Season's Beating, tu le vois jouer, tu te rends bien compte que même s'il a commencé à adapter son équipe et que t'as encore les vieux de la vieille qui jouent encore avec des équipes MSS, les gars, tu sens très bien qu'il y a quelque chose. Enfin, il y en a qui ont fait la transition sans aucun problème et d'autres, tu sais, tu sens qu'il y a vraiment un truc qui coince.
Bah, Sanford, c'est l'exemple même, quoi.
D'accord, et donc, ils vont peut-être réussir à la faire cette fois, cette transition, ces messieurs, étant donné qu'on va se rapprocher d'un gameplay peut-être un petit peu plus proche.
Exactement, et je pense qu'ils vont vraiment réussir à faire cette transition, dans le sens où ça va se jouer un peu comme le jeu qu'ils ont dosé pendant quoi, 10 ans quasiment. Ouais, et là, vraiment, le fait que les X-Factor fassent beaucoup moins mal, etc., c'est des choses qui vont vraiment, vraiment plaire, je pense, aux anciens joueurs. Quoi.
Un truc qui m'a intéressé aussi, c'est que les assists, autrefois, je ne savais pas, ça je l'ai appris avec le changelog, les assists ne comptaient pas dans le hit stun, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien Marvel 3, le système pour empêcher les infinis, c'est l'accumulation du hit stun. Le hit stun, c'est l'étourdissement que vous avez quand vous prenez des combos. Et le principe, c'est quand tu arrives à un certain degré, ça réduit le hit stun des coups que vous portez est réduit proportionnellement au nombre de coups que vous avez déjà mis dans la face de votre adversaire. Donc à la fin, vous retrouverez avec un gros point qui fait l'équivalent au hit stun d'un light punch, donc les combos passent plus. Et je ne savais pas qu'en fait les assists n'avaient pas de hit stun dans Marvel vs Capcom 3, et c'est ça entre autres qui permettait de faire des combos à rallonge. Par exemple, les gens qui font des combos avec le Cold Star d'Amaterasu et jettent des 5 ou 6 boules de glace comme ça, c'est un truc qu'on va plus voir ça en fait.
Il y a beaucoup de changements justement dans le gameplay du jeu qui vont complètement changer la donne. Par exemple, pour revenir au air dash, le air dash, on ne peut plus bloquer pendant le air dash.
Ça c'est bizarre.
Amaterasu va prendre dans la gueule avec ce truc.
Amaterasu prend très cher. Je pense que c'est la principale touchée par ce changement. Magneto, il prend, mais comme son air dash, est très bizarre à Magneto en fait. J'ai testé pas mal et j'arrive pas à m'y faire. Faut vraiment que je vraiment voir, mais le fait qu'on puisse plus bloquer, ça change pas mal de choses, quoi.
Ouais, et
le X-Factor en l'air aussi, qui est une très bonne chose dans les matchs qu'on a fait, qui vont d'ailleurs être prochainement commentés, je pense, par Pharaon sur eLive. Le truc qu'on faisait, en fait, c'est que quand tu fais ton combo, tu te prends pas la tête, quoi. Tu fais ton combo, t'envoies en l'air, hyper, X-Factor, hyper, et ça retire vraiment pas mal, quoi. Mais tu perds ton X-Factor en contrepartie. Donc il va vraiment avoir beaucoup de changements sur la manière dont les combats sont faits, quoi.
Très bien, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà bientôt 40 minutes que nous sommes en ligne. Un dernier truc à rajouter, messieurs, avant qu'on conclue ?
Moi, pour ma part, jouer à tester UMVC3, quoi, parce que le jeu est vraiment bon. Il y a pas mal, tout ce qui était un peu abusé est parti, et je pense que ce jeu va être bien pour les nouveaux joueurs. Ça sera moins compliqué que MVC3 au début, quoi. Donc, faut pas hésiter à tester le jeu. On va produire pas mal de contenu pour MVC3 prochainement. Voilà.
Très bien. Ok. Atal, plus rien à dire ?
Non, j'ai rien de spécial à dire.
D'accord, ok. C'était Tosti numéro 3. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit encore une fois à la semaine prochaine. Et puis, portez-vous bien, dosez bien, jouez bien, etc. Venez sur Bagro.fr, venez sur le forum, etc., etc. Et puis, merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'émission dans les commentaires du site. Allez, à plus les gens.
Ciao.
Salut.
Au revoir.